9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour Philippe.
Je dois le dire, vous êtes une personne assez extraordinaire. Vous êtes médecin, vous avez fait Sciences Po en plus de médecine, vous étiez engagé 20 ans dans l'humanitaire, vice-président de MSF, président d'Action contre la faim. Vous êtes désormais connu comme écrivain, prix Goncourt avec Rouge Brésil, 800 000 exemplaires, mais vos autres livres aussi se vendent beaucoup, c'est pas fini. Vous avez été reçu en 2008 à l'Académie française et vous avez été ambassadeur de France au Sénégal, c'était de 2008 à 2011. Et votre actualité, vous publiez enfin votre roman Le Flambeur de la Caspienne chez Flammarion. Je dis enfin parce qu'il était déjà sorti, moi je l'avais déjà, et puis il y a le confinement et là il ressort dans les librairies. C'est le retour de votre petit consul, un diplomate atypique qui était déjà au cœur de vos romans Le Suspendu de Conakry et Les Trois Femmes du Consul. Cette fois l'histoire se passe à Bakou en Azerbaïdjan et vous qui choisissez attentivement les lieux de vos récits, pourquoi là-bas, pourquoi Bakou?
Bah, Bakou, parce que c'est une ville surprenante. Et, d'ailleurs, c'est le cœur de l'intrigue, puisqu'il est envoyé là-bas. On croit qu'on le punit en l'envoyant là-bas, et pas du tout. Il arrive et il découvre une ville magnifique, une ville qui a été construite à la fin du 19e siècle, à partir de rien, sur rien, d'ailleurs, au milieu de rien. Mais quand il y a eu le premier boom pétrolier, quand ils ont découvert le pétrole, ils n'avaient rien, donc ils ont fait venir des architectes français. Ils se sont construits un petit Paris au milieu des sables.
On dirait du haussmannien.
C'est haussmannien.
C'est haussmannien sans Haussmann, au milieu de l'Azerbaïdjan.
Au milieu de rien. Et c'est tout propre, c'est-à-dire que c'est un Paris dans lequel il n'y aurait pas un tag, pas une crotte de chien, rien du tout. Et vous pouvez... Bon, c'est un pays musulman, mais en même temps très libéral, donc vous pouvez boire votre petit vin blanc en terrasse, etc. Mmh. Donc Aurel, le consul...
Ah, il y va, lui.
Il est très content.
Il n'en boit pas qu'un.
Bah, non, il n'en boit pas qu'un.
Il en boit plusieurs des petits vins blancs, c'est même des gros vins blancs. Donc Aurel Timescu, il a une nouvelle affectation, donc à Bakou, à l'ambassade de France. Il sent que l'ambassadeur, qui s'appelle Gilles de Carteron, le déteste, et que cet ambassadeur va tout faire pour le virer. Sauf que l'épouse de l'ambassadeur est morte récemment, dans des conditions mystérieuses, et du coup...
Oui, ben, il joue sa peau parce que il est tellement bien là, il a envie de rester. L'autre, il veut le mettre à la porte. Alors, il se dit, faut que je trouve quelque chose. Et puis, en y réfléchissant, il se dit, cet ambassadeur, il a quelque chose à cacher. Pourquoi il m'en veut comme ça? Pourquoi je lui ai rien fait finalement? Bon, c'est vrai qu'il a mauvaise réputation. Aurel, on sait qu'il est un tir au flanc. Mais enfin, quand même, t'as l'agressivité, il a quelque chose à cacher. Alors, il a cette intuition, il tire le fil, et puis tout le reste vient avec.
Voilà, et il mène l'enquête. Votre personnage va en parler, il s'appelle Aurel Timescu, jeune consul adjoint, je vous cite, calamiteux diplomate. Dans le Figaro, Jean-René Van der Platzen écrit « Il y avait Arsène Lupin, Sherlock Holmes, Hercule Poirot et Jules Maigret. Désormais, il y aura aussi Aurel Timescu, un héros récurrent, qui rappelle par moments le lieutenant Colombo, auquel il emprunte plusieurs traits de caractère qui lui permettent de passer pour un être inoffensif, alors qu'il n'a pas son pareil pour démêler les fils d'une intrigue complexe. Et attendez, la suite est fin. On prend le pari, Aurel Timescu est appelé à un grand destin romanesque. » Et vous dites vous-même, Jean-Christophe Ruffin, que vous partez souvent pour vos personnages, de personnes véritables. Vous avez été ambassadeur. Qui était votre modèle?
je veux désigner personne. Vous savez, c'est tout
un mix de plusieurs.
Oui, disons que des personnages comme ça dans la diplomatie, ça existe.
Ah bon?
Ça existe.
Non, il faut le raconter. J'avais jamais vu ça. Quand même, je vous raconte. Je vous montre la couverture du livre. Donc, on le voit derrière une image. Cette image, c'est un photomontage. Mais il y a un photographe. Il y a écrit sur la quatrième de couvent, tout petit dans les notes, caractère 8. Couverture, photographie d'Aurel Timescu, Pascal Ito. Donc le type existe, on dirait une sorte de Philippe Catherine, avec des pompes tricolores de clown, sans être des pompes de clown, un grand manteau alors qu'on crève de chaud, un pantalon trop court, et une espèce de besace
oui,
en cuir.
Qu'il faut
c'est qui ce mec-là, franchement?
Il faut comprendre pourquoi. En fait, il est né en Roumanie, à l'époque communiste. Là-bas, il a végété sous Ceausescu, etc. Puis il rêvait de l'Europe. Ouais. Mais l'Europe des années 30, ce qu'il voyait sur les films. Donc il a l'élégance qu'il imaginait être celle des Européens. Puis quand on a pu, en effet, le racheter, puisque sa famille l'a racheté à l'Ouest, l'a fait passer à l'Ouest, il est arrivé là, il a continué à se
bien. J'ai compris tout ça. Mais vous en avez vu des types habillés comme ça?
Non, alors, pas forcément habillés comme ça, mais disons habillés n'importe comment, oui.
Et lunaire à ce point.
D'ailleurs, ça m'a toujours frappé quand j'étais ambassadeur au Sénégal. Les Sénégalais sont très sensibles à l'élégance, qu'ils soient habillés en boubou, qu'ils soient habillés à l'européenne, ils sont très chics. Et les Français, par rapport à ça, ne sont pas toujours à la hauteur. Ça m'a souvent frappé dans des réunions, je regardais autour de moi et je voyais les Sénégalais tirer à quatre épingles, toujours vraiment élégants. Nous, on est un peu les spécialistes de la chaussette tire-bouchonnée de toutes les couleurs, etc. Hein, ça existe.
Même
ça.
Dans l'ambassade.
Ouais, ouais,
moi,
ouais.
J'avais vu les pubs Tang et je pensais que tout le monde était hyper sapé. Pas du tout.
Sapé à sa manière. C'est-à-dire que les gens pensent être bien habillés, mais parfois, ça est à côté. Quoi.
Et voilà. Puis, je vous demandais comment vous avez travaillé, parce que non seulement vous décrivez dans vos livres des paysages, des ambiances, mais également des situations politiques. Vous restez avec nous, Jean-Christophe Ruffin, évidemment.
À suivre, le portrait inattendu d'Hélène Manarino, portrait grâce auquel on va tout savoir de vous, Jean-Christophe Ruffin, et c'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Hélène Manarino, vous êtes avec nous.
Évidemment.
J'étais en train de vous présenter et vanter votre accent britannique à Jean-Christophe Ruffin qui vous découvre.
Je vais parler anglais, Jean-Christophe Ruffin. Faites attention. Hein.
Hélène, c'est à vous.
Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
How are you?
I'm fine, thank you and you. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors déjà, parlons de vos habitudes. Votre journée commence systématiquement avec un café et un peu de lait entier. Si vous n'avez pas de cela, vous ne pouvez pas commencer vos occupations. Et attention, s'il n'y a plus de lait, vous pouvez mettre du beurre.
Ouais.
Est-ce qu'il y en avait ce matin ?
Oui, ben non, oui, j'en ai toujours parce que je ne peux pas boire un café sans lait. Je sais pas pourquoi,
mais du lait entier, je ne connais que vous.
Ah bon ?
Ouais, et du beurre aussi, ouais, mettre du beurre dans son café.
N'importe quoi, n'importe quel corps gras, un peu, voilà, c'est idiot. Hein,
Oui.
C'est le côté nourrisson qui est resté chez moi. Quoi,
Jean-Christophe Ruffin, allongez-vous et votre analyse va arriver. Allez-y, prenez votre temps.
Vous faites Hélène. Attention aux choses, aux objets. Vous êtes sûrement le seul collectionneur de petites cuillères que vous volez dans les avions.
Non.
Une mission que vous avez, confiée.
Oh oui. J'adore ce que la prochaine fois que vous allez prendre l'avion, l'hôtesse, elle va vous mater.
J'ai des centaines de petites cuillères. Et mon rêve, c'est d'arriver à trouver des collectionneurs qui échangeraient parce que j'ai telle compagnie, etc. Enfin, toute une collection incroyable.
Mais avoir un service entier, Lufthansa.
Je ne vole que ça.
Ouais. Alors, une mission que vous avez quand même confiée à vos filles, puisque plus jeunes, elles volaient les petites cuillères des différentes compagnies aériennes pour vous. Bon, aujourd'hui, elles sont en plastique, donc il suffit d'en acheter un peu partout. Mais en tout cas, c'est une vraie... Encore ? Alors, les cuillères, mais pas que. Vous avez l'âme d'un romantique aussi, Jean-Christophe Ruffin. Les fleurs pour votre femme, ça peut vous ennuyer. Vous allez au-delà. Vous avez offert à votre épouse une arme à plomb que vous avez installée dans l'entrée de votre appartement. Voilà, un stand de tir.
Non.
Si, ben je fais du tir, mais alors, c'est du tir à plomb. Hein.
Non, non,
mais
attendez.
Le tir, je le fais dans un club, le tir à balle.
Ouais.
Non, je ne tire pas à balle dans mon appartement. Ça, c'est... Mais le pistolet à plomb, c'est assez sympa.
Bah, oui, c'est sympa.
Mais comme
bien
cadeau,
sûr.
C'est bien, c'est romantique.
Non, mais attendez, vous avez un stand de tir chez vous.
Eh ben, j'avais dans mon précédent appartement, parce qu'il y avait un long couloir qui faisait juste 10 mètres. Et donc, 10 mètres, bah, c'est la...
T'imagines le mec de Deliveroo qui se trompe d'heure.
Mais il fallait donc bien prévenir avant quand on rentrait chez vous. Alors, très superstitieux, il est en revanche interdit d'ouvrir un parapluie à l'intérieur ou de passer sous une échelle, Jean-Christophe Ruffin.
Vrai, ouais.
Et pourtant, rien ne vous fait peur. Vous êtes capable de mettre au défi absolument tout le monde. Comme votre fille, âgée de 13 ans à l'époque, vous lui avez proposé de faire l'ascension du Mont Blanc et pendant 2 semaines, vous l'avez préparée. À seulement 13 ans.
Oui, il avait 14 ans en fait.
Hein. Ouais, et elle l'a fait ?
Oui, elle l'a fait presque jusqu'en haut et c'est un peu ma faute d'ailleurs parce que peut-être qu'elle n'était pas assez couverte. Enfin, elle n'a pas fait la toute dernière partie. Mais non, elle était très contente, on était avec des copains et tout.
Je précise que vous êtes médecin.
Oui,
donc s'il y avait quelque chose, non mais je dis pour les gens qui s'inquiètent en se disant ce type est complètement fou,
non,
il est quand même médecin, il voit s'il y a quelque chose qui ne va pas.
Oui, non, elle était la preuve.
Ouais.
Alors pas de temps à perdre avant même de savoir marcher, vos filles ont su faire de l'escalade, vous les entraînez à Fontainebleau, elles ont appris à faire les nœuds, les techniques de rappel, bref, tout est possible, même de faire une séance photo de l'un de vos amis en Grèce pour un livre que vous étiez en train d'écrire, vous l'aviez déguisé en conquistador, sauf que la séance s'est déroulée sous une tempête hors norme, les bateaux du port étaient complètement retournés et vous avez réussi à garder quand même une photo de cette séance. Sportif, aventurier, rien d'étonnant que la carte que vous préférez abattre, Jean-Christophe Ruffin, c'est votre carte de fidélité Décathlon. Vous pouvez...
C'est vrai.
Un mythe s'effondre. Mais... C'est génial.
Désolé. Hein.
J'ai un grand...
C'est vrai.
J'adore tous ces instruments.
Mais qu'est-ce que vous achetez ? Parce qu'une fois qu'on a tout acheté...
Des vêtements techniques. Ah ben non, ça évolue tout le temps. Ça évolue tout le temps. Vous voyez, par exemple, là, je me suis acheté une montre pour... Quand je cours et tout, qui est...
Ouais, mais il y a plein de choses.
Ouais.
Parce que vous pouvez y passer des heures. Donc, pour observer, oui, les les équipements de montagne, les polaires, voilà. Les baudriers, voilà. Alors, observateur donc, qui aime l'aventure et la légèreté, vous ne reculez devant rien pour justement faire avancer tout le monde.
Waouh, merci Hélène.
Merci.
Je vous imaginais absolument pas comme ça.
Ben, je suis assez sportif, moi, ouais. J'aime bien... Oui,
non,
oui.
Non, je sais, mais je ne vous imagine pas chez Decathlon en train de tournicoter d'un rayon à un autre.
Il n'y a pas que Decathlon, ça pourrait être le vieux campeur, enfin... Vous avez...
Ah, parce que vous avez toutes les cartes de fidélité.
Oui, c'est ça, avec une petite
cuillère. On va citer GoSport. Tant qu'à citer des annonceurs, on va citer GoSport. Attendez, j'avais lu un truc il y a très longtemps, vous écriviez, là aussi le mythe s'était effondré, parce que vous parliez d'élégance. Vous écrivez vraiment en jogging chez vous?
Oui, parce que je trouve que c'est physique, moi j'écris à la main, ouais. Parce que j'écris mes livres très très vite, et puis c'est un peu comme de monter, je sais pas, de faire la ascension d'une montagne. C'est-à-dire que quand vous avez 600 pages en quelques jours, il faut sortir en écrivant à la main, ça fait... Voilà, il y a un côté presque physique. Quoi. Ouais. Moi, j'aime bien ça. Donc, je m'habille que quand je viens chez vous. Hein. Ouais.
Mais pour mieux, c'était rester réussi avec une chemise extrêmement bien repassée. Et juste un mot, votre éditeur, c'était en 2011, je le cite de mémoire, vous disiez déjà, arrête de dire que tu écris très vite.
Oui, j'ai des amis qui me disent ça, par exemple André Makin, par exemple, il me dit, mais tu gâches le métier, il faut dire qu'on prend beaucoup de temps pour écrire les livres, sinon on va nous prendre pour des rigolos. Moi, je n'ai pas ce problème parce que... Au fond, qu'on écrit vite, qu'on n'écrive pas vite, je pense que c'est la même chose. En plus, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'un livre se prépare longtemps, on y pense. Et puis ensuite, quand on l'écrit, on le rédige plus ou moins vite. Donc moi, j'y pense longtemps. Puis quand je l'écris, je l'écris vite. Mais ça ne retire rien. Vous voyez, Simonon, que j'admire infiniment, il écrivait ses bouquins
en deux semaines, trois semaines.
C'est la blague où Orson Welles téléphone à Simonon. La secrétaire lui dit, je ne peux pas vous le passer, il écrit un livre. Et Orson Welles dit, c'est pas grave, je patiente. C'est-à-dire que, voilà, et en fait, voilà, c'est cette idée que, qu'on écrive vite, pour moi, c'est une qualité plutôt.
C'est comme une émission.
Ouais.
On met beaucoup de temps à la préparer, puis après, ça dure pas très longtemps.
Oui.
Mais heureusement, il y en a une autre lundi. Vous restez avec nous. Hein.
Ouais.
C'est Jean-Christophe Ruffin qui est notre invité. Avec lui, dans un instant, on découvrira nos indispensables. On parlera musique avec les sorties d'albums de la semaine et littérature avec un livre qui va nous faire voyager dans le temps. On reste sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Suite et fin de Culture Média avec notre invité Jean-Christophe Ruffin. On parle de son dernier livre, Le Flambeur de la Caspienne, sorti chez Flammarion.
Vous avez travaillé pendant le confinement. Vous dites vous-même que votre priorité, c'est pas écrivain. Comment s'est passé le confinement pour vous, Jean-Christophe Ruffin?
Moi, l'écriture, ça a toujours été dans les marges un petit peu. Ouais. Mais j'ai commencé par un métier dur, si je puis dire, la médecine, qui me prenait beaucoup dans les hôpitaux, etc. Bon, là, j'ai proposé d'ailleurs mes services. Je me suis inscrit sur la réserve médicale, là, mais enfin, personne ne m'a demandé.
C'est pas vrai. Vous étiez où?
J'étais en Haute-Savoie. Et en fait, il n'y a jamais eu vraiment de tension sur les hôpitaux dans cette région. Enfin, il y a eu des tensions, mais qui étaient gérables avec le personnel en question. Non, moi, j'ai passé un confinement de lecteur, plus que de...
Ouais.
Parce que écrire, ça nécessite quand même d'avoir un projet, d'être prêt, etc. Moi, je m'attendais pas à ça. Je revenais du Brésil, j'avais passé 2 mois au Brésil, au mois de janvier-février, pour travailler sur l'Amazonie et tout ça. Et quand le confinement a commencé, j'avais pas vraiment un programme. Donc... Voilà, j'ai lu beaucoup, j'ai réfléchi, j'ai peut-être pris des notes pour un prochain livre, mais je n'ai pas écrit.
Vous avez été numéro 2 de MSF, Médecins sans frontières, vous êtes médecin, je l'ai dit. Comment vous avez jugé la réponse médicale à la pandémie française, j'entends?
Je l'ai trouvé un peu jacobine, c'est-à-dire que chaque pays a réagi à sa manière. C'est intéressant parce que vous avez des pays fédéralistes qui ont laissé un large,
en
large
Allemagne, autonomie. Chaque land décidait de ce qu'il allait faire.
C'est ça. Et je pense qu'ici, on a bien vu que ce n'était pas comme ça. Donc, comme il y avait une urgence à Mulhouse, on a bouclé la Lozère, où il ne se passait rien. Bon, c'est un petit peu dommage parce que moi, j'ai, dans la région où j'habite, en Haute-Savoie, il y a eu les premiers cas en janvier. Et ils ont été très bien jugulés. Hein. Le premier cluster, comme on dit en français, a été très bien jugulé. Il y en a un dans le Morbihan aussi. Donc, à ce stade-là, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus différencié. Je pense qu'on paye un prix très, 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 très lourd pour une mesure qui a été très brutale. Bon, alors, effectivement, on peut toujours dire que sur le moment, il n'y avait pas le choix. Hein. Moi, je jette la pierre à personne. Je dis juste qu'il faudra tirer le bilan de tout ça. Quoi.
Et quel bilan, justement, je vais vous demander ça. Que vous enseigne cette pandémie, selon vous? Vous avez dit cette épidémie est un retour de l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est un retour de l'histoire ici. C'est-à-dire que nous, Européens, Français en particulier, on avait pris l'habitude depuis 50 ans de considérer que on n'était plus soumis au risque ni de guerre, ni d'épidémie, ni de famine, ni quoi que ce soit. Bon, on était, ce qui est rare hein, dans notre histoire, parce que tout le 19e siècle, toute la moitié du 20e siècle, c'était une histoire de, ici, de guerre, de catastrophe, d'épidémie. Donc tout d'un coup, depuis la fin des guerres coloniales, depuis 50 ans, on s'est dit, bah, nous, on n'est plus là-dedans. Alors les drames, tout ça, c'est loin, c'est ailleurs. Mmh. Et on a créé ces organisations type Médecins sans frontières pour aller s'occuper de ça. Ailleurs. Et puis aujourd'hui, ben, les réfugiés, ils sont sous le métro à Stalingrad. La guerre, elle est là avec Charlie Hebdo ou Bataclan, si vous voulez. Mm-hmm. Et maintenant, l'épidémie. Voilà. Ben, ce n'est pas exceptionnel, c'est juste le retour de l'histoire.
Puisque vous parlez de guerre, vous n'avez pas aimé cette phrase d'Emmanuel Macron, nous sommes en guerre.
Oui, mais d'ailleurs, c'est drôle parce que deux jours, là, je rencontrais Hélène Karadankos, on parlait de ça parce que elle spontanément elle me disait la même chose. Elle me disait il faut garder un sens au mot. Le mot guerre, il est lié à quelque chose de précis, c'est-à-dire qu'il y a un ennemi constitué, il y a des armées, etc. Et en disant qu'il y a une guerre, ben, on risque de chercher justement un ennemi. C'est-à-dire que, et on voit que dans certains pays, on s'en est pris aux étrangers. En Allemagne, il y a eu des histoires avec des Français qui ont été attaqués. En Afrique, ouais. Il y a eu des. Vous voyez donc attention, là, c'est pas une guerre, c'est une mobilisation. Collective, et je pense que l'idée de guerre, elle infantilise un petit peu tout le monde. C'est-à-dire que du coup, c'est guerre, on obéit. Quoi. Alors que là, il faut plutôt collaborer.
Et vous dites aussi une remarque très juste faite par vous, mais comme vous êtes médecin et que vous êtes académicien, donc entre guillemets immortel, elle prend un sens particulier, vous dites aujourd'hui la mort d'un centenaire est considérée comme un drame.
Ben oui, moi quand j'ai fait mes études, si vous voulez, quand on devait réfléchir par exemple, est-ce qu'on peut opérer quelqu'un, on disait qu'il a 70 ans. Alors on dira 70 ans, bon. Et puis après, un peu plus tard, on a dit, bon, mais 80 ans. Oh, bah 80 ans, allons-y, on peut y aller. Mais maintenant, on va l'opérer, il a 90 ans, on va opérer. Ben, c'est un centenaire. Bon, on va quand même lui changer sa hanche. Bon. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de montée, c'est formidable, c'est très bien, c'est le progrès. Simplement, je pense qu'on est un peu à une limite, là. Alors là, y a des choix, quoi. On sauve les centenaires, mais à quel prix ?
Merci, on restera sur cette interrogation. Merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin d'être venu nous voir. Je le rappelle, c'est chez Flammarion, ça s'appelle Le Flambeur de la Caspienne et c'est le dernier roman de Jean-Christophe Ruffin qui est avec nous en direct sur Europe 1. Culture Média revient, non pas demain, mais lundi. Nous serons avec Emmanuel Lebert pour le premier numéro du Doc Quotidien sur TMC. Il sera consacré justement à nos aînés, qui est le nouveau mot pour dire senior, qui est déjà le nouveau mot pour dire les vieux. Et puis ensuite, la chanteuse Émilie Loiseau pour la sortie de son nouvel album Run, Run, Run. C'est en hommage au chanteur Lou Reed. Salut Céline Dacosta.
Salut Philippe Vandel.
Bon week-end à lundi.
Bon week-end à lundi. Dans un instant, ça fait du bien avec Anne Romanoff, toute sa bande et leurs invités. Aujourd'hui, Sophie Fontanelle et Pierre-Jean Chalençon sur Europe 1.